Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30 et tout de suite les titres de l'actualité avec Nathan Lacomble.
Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle grève des trains a débuté hier soir quand un Kohl's est allé recueillir le sentiment des navetteurs. Comment résister à la propagande de guerre, c'est le sujet d'une exposition lancée ce week-end à Liège. Antoine Ramey s'est rendu au vernissage. C'est la fin de la phase classique dans Jupiler Pro League, bilan de cette première partie de saison, avec un focus sur la saison du Standard de Liège. Et enfin, toute cette semaine, retrouvez une page spéciale consacrée à l'extrême droite. Aujourd'hui, Thomas Radou s'est intéressé à l'histoire de l'extrême droite en Belgique. Une nouvelle grève des trains a débuté hier soir. Les négociations entre le ministre des Pensions Yann Yannebonne et les syndicats ont coupé court la semaine dernière. La CGSP Cheminot et la CSC Transcom ont donc annoncé maintenir leur calendrier de grève. Pour rappel, ils avaient annoncé 18 jours de grève de fin février jusqu'à l'été. Pour rendre compte de la situation pour les usagers, Quentin Kohls est allé à la rencontre des navetteurs.
Si vous devez prendre le train aujourd'hui, vérifiez les horaires en ligne. Très peu de trains circuleront dans l'ensemble du pays. Seul un IC sur deux sera en circulation. En ce qui concerne les trains locaux, deux trains L et S rouleront, tandis qu'il n'y aura quasiment aucun train P en service. Une situation qui empêche certains navetteurs d'aller travailler.
Je me retrouve à la gare et dans l'embarras, je viens d'envoyer un petit mot à mes employeurs pour dire que... voilà, que j'étais bloquée.
Un mouvement de grève qui embarrasse, mais qui est aussi compris par les navetteurs.
Je les comprends. Maintenant, le système de grève va toucher des personnes qui ne sont pas directement concernées. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, je comprends, mais en même temps, je pense que les manifestations de ce type-là se trompent de cible.
C'est compliqué, parce que ça ennuie quand même le citoyen lambda, entre guillemets, qui essaye d'aller se déplacer, d'aller travailler, etc., etc. Mais d'un autre côté, c'est une manière quand même de se faire entendre, parce que comme ça embête les citoyens, automatiquement, je pense que ça embête indirectement le politique, donc pourquoi pas, oui.
La grève prendra fin ce lundi à 22h.
Et restons dans le domaine des grèves avec un mouvement émotionnel déclaré ce matin au dépôt-tech de Bassange. L'ensemble des lignes du dépôt ne circuleront pas ce lundi. Des perturbations sont à attendre sur d'autres lignes, notamment celle du 48. Passons maintenant à un tout autre sujet. En ces temps de tensions géopolitiques, la propagande est partout. C'est le sujet d'une exposition lancée ce samedi au cinéma Sauvenière à Liège. L'exposition s'intéresse à différentes méthodes utilisées durant la guerre. Antoine Ramey s'est rendu au vernissage et en a profité pour poser des questions à Anne Morelli, professeure en histoire à l'ULB et une des instigatrices du projet.
L'ennemi a toujours tort, nous combattons pour une cause plus grande que nous, ou encore l'adversaire est un fou. Ces trois principes font partie des 10 mécanismes de la propagande de guerre établis par l'historienne Anne Morelli. Ce qui était à l'origine un livre s'est transformé en exposition où les spectateurs peuvent venir découvrir ces principes avec exemple à l'appui.
Ces principes, ce sont des principes de base qui sont utilisables dans toutes les guerres. Et donc, quand vous connaissez les mécanismes de la propagande de guerre, vous voyez qu'elle est à l'œuvre partout et tout le temps, y compris maintenant.
Les conflits passés ne sont pas les seuls concernés. La propagande est toujours un outil primordial en temps de guerre, même si les méthodes ont évolué.
La propagande a toujours les mêmes principes, mais l'application est totalement différente. Pour la Première Guerre mondiale, c'était un cercle de personnes qui se disaient tous les jours, tiens, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va inventer comme fake news, etc. Et puis on demandait à un peintre de faire des images qu'on distribuait. On est arrivé dans une époque où tout ça s'est naturellement modernisé, technologisé, et où il y a aujourd'hui des fabriques du faux qui sont des firmes de communication.
Vous pouvez découvrir ces 10 principes à l'exposition « Résister à la propagande de guerre » exposée au cinéma Souvenir jusqu'au 30 mars.
Et place à l'actualité internationale avec hier le président américain Donald Trump qui a ordonné des frappes de grande envergure contre le Yémen. Ces frappes ont pour but de faire cesser les attaques de navires commerciaux en mer Rouge par les Houthis, ce mouvement yéménite soutenu par l'Iran. Peter Hesget, chef du Pentagone, et le secrétaire d'État Marco Rubio ont annoncé que les frappes continueront jusqu'à l'arrêt des attaques. Au moins 31 personnes ont perdu la vie lors des frappes américaines. De leur côté, les rebelles houthis ont revendiqué dimanche une attaque contre un porte-avions américain en mer Rouge. En Macédoine du Nord, un incendie s'est déclaré dans une discothèque dans la nuit de samedi à dimanche. Le dernier bilan fait état de 59 morts et d'une centaine de blessés. Les autorités locales ont annoncé enquêter sur une possible corruption concernant l'établissement qui travaillerait sans licence. 5 procureurs ont été désignés et une personne a été interpellée. Le premier ministre belge Bart De Wever a annoncé ce dimanche l'envoi d'une équipe bifaste afin d'apporter une aide médicale urgente aux nombreuses victimes. Et triste nouvelle dans l'actualité culturelle, l'actrice belge Émilie Dequesne est décédée ce dimanche en début de soirée à l'âge de 43 ans. Elle avait révélé en octobre 2023 être atteinte d'un cancer du système endocrinien. Révélée à 18 ans dans le film des frères Dardenne Rosetta, elle avait reçu en 2021 le César du meilleur second rôle dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. En 2022, elle avait obtenu le Magritte de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Close de Lucas Dont. Dans le reste de l'actualité culturelle, la 54e édition de la Foire du Livre s'est tenue du 13 au 16 mars à Bruxelles. L'événement a attiré quelque 85 000 visiteurs. C'est un nouveau record de fréquentation. Cette année, la Foire du Livre invitait les amoureux du bouquin et de la littérature à réfléchir à notre lien avec le vivant, le réel et la solidarité humaine. L'événement qui proposait également plus de 300 activités mettait aussi à l'honneur la littérature de langue allemande. Et place au sport, la phase classique de Jupiler Pro League s'est terminée hier. Le Standard a partagé 0-0 contre l'Antwerp. Encore engagé dans la lutte pour le top 6 il y a quelques semaines, les Rouges disputeront finalement les European Playoffs. Focus sur une saison en dents de scie avec vous, Quentin.
Et oui, Nathan, beaucoup d'observateurs avaient annoncé une saison difficile pour le Standard. Passé proche de jouer les play-downs l'année passée, les Rouges étaient promis à un avenir similaire cette année. Sous la tutelle d'un Ivan Leko resté pour maintenir le bateau à flot, le Standard aura finalement terminé le championnat à la 7e position. Un résultat inespéré en début de saison, une 7e place qui a en quelque sorte un goût amer puisque les Liégeois ont cru jusqu'au bout à une place en play-off 1. Ils auront finalement été trahis par leur fin de calendrier où ils ont affronté les 5 premiers et par un manque d'efficacité criant. Car si le Standard a pu se reposer sur une défense solide, ils ont tout simplement été incapables de marquer en finissant la phase classique avec seulement 22 buts inscrits. Un scénario qui s'est répété une nouvelle fois ce dimanche lors du match nul contre l'Antwerp. Place maintenant aux European Playoffs où il faudra maintenir le cap pour encore faire rêver Sclessin et finir la saison en bonté.
Et alors toujours en football, d'autres clubs liégeois jouaient ce week-end.
Oui, en deuxième division, le RFC Serein a partagé l'enjeu face aux jeunes d'Anderlecht sur le score de 1 but partout. Le Royal Football Club liégeois s'est quant à lui incliné à Lokeren 2-1.
Et dans le reste de l'actualité sportive, le premier Grand Prix de Formule 1 a eu lieu ce week-end en Australie.
Un Grand Prix qui était grandement attendu par les fans de Formule 1 puisque Lewis Hamilton se parait pour la première fois du rouge de Ferrari. Une première compliquée pour le nouveau pensionnaire de l'écurie avec une 10e place au classement général. Sous la pluie, c'est finalement Lando Norris, le pilote de McLaren, qui a remporté la course.
Merci Quentin. Nous vous l'annoncions dans les titres, toute cette semaine, nous nous intéresserons à la question de l'extrême droite, son histoire, ses dangers et ses méthodes. Pour introduire cette série, il est intéressant de se concentrer sur l'histoire de ce mouvement dans notre plat pays. Thomas Radou s'est penché sur cette histoire.
Élection du 24 mai 1936. À la sortie des urnes, les trois partis traditionnels belges essuient leur premier revers. Les socialistes, les catholiques et les libéraux perdent des plumes au profit de l'extrême droite. Ou plutôt, des extrêmes droites. En Wallonie, le parti REX obtient 11% des suffrages. Fondé par Léon De Grelle, le mouvement rassemble tous les mécontents du parti catholique. Anticommunistes, conservateurs et qualifiant tous les autres partis de pourris, Léon De Grelle critique régulièrement le régime parlementaire belge.
Qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes la jeunesse, nous sommes la force, nous sommes la vie. En face des partis corrompus et d'un régime à l'agonie, nous devons vaincre. Rex a avec lui le pays entier, c'est pour ça que Rex vaincra.
En Flandre, Le Vlaams National Verband est fondé en 1933. Il agrège différents courants du nationalisme flamand. Lors des élections de 1936, le parti obtient 16 sièges à la Chambre. Les rexistes, eux, en obtiennent 21. C'est le premier dimanche noir en Belgique. Après la guerre, l'extrême droite reste marginale en Wallonie. Le Front National Belge, la version wallonne du parti de Jean-Marie Le Pen, ne dépassera jamais la barre des 10%. Le parti s'est autodissous en 2012. En 2024, le parti Chez Nous, né des cendres du Parti Populaire, obtient 0,9% des voix. En Flandre, le Vlaams Blok naît en 1978 d'une scission avec le parti nationaliste flamand, la Volksunie. Lors des élections de 1991, le parti récolte 10,8% des voix, un score jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis ce dimanche noir, le parti est désormais bien installé. Renommé Vlaams Belang en 2004, le parti a obtenu 13,8% des voix lors des dernières élections fédérales.
Veel succes en eerst onze mensen. Ik dank u.
Et je vous rappelle que toute cette semaine, en fin de journal, nous nous pencherons sur les problématiques liées à l'extrême droite durant une page spéciale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain, même heure, sur 48FM.